ceux qui ont eu la possibilité de participer aux offices de la théophanie conjointement à la veille de mortuaire de sœur Ignace, qui ont pu se relayer pour le psautier ou assister aux offices et qui ont eu la chance de participer à son inhumation, aux funérailles. Cela, je crois, plus ou moins unanimement, un ressenti, un frémissement intérieur. Pas seulement intérieur. Et ce frémissement est à coup sûr le premier frémissement qui correspond à l'émotion que ressentaient les apôtres quand ils étaient sur le mont Tabor. Je ne dis pas que ces cérémonies-là étaient directement une expérience de la transfiguration au sens fort, comme Motovilov a pu voir la transfiguration de Saint Séraphin, mais ce que vous avez, ce que nous avons ressenti à ce moment-là, était déjà des préludes à cette expérience de la transfiguration. Vraiment, vraiment, c'était ça. Ne nous prenons pas pour des mystiques, on n'a pas vu le Christ transfiguré dans une lumière fulgurante. Cependant, il y avait quelque chose dans nos cœurs à tous qui sentait déjà les prémices. Et si certains ont eu la chance de pouvoir le goûter, ceux qui ne l'ont pas goûté ne sont pas frustrés pour autant. C'est-à-dire que ces expériences-là, ce sont des grâces que Dieu donne, non pas pour le bénéfice unique, exclusif de ceux qui le ressentent, mais c'est un témoignage pour toute l'Église. Ce sont comme des charismes, si vous voulez, que les uns ressentent pour l'édification de l'Église tout entière. On nous dit qu'il paraît que Dieu existe. Il paraît que le Christ s'est incarné. Il paraît qu'il est resté. Il paraît qu'il est transfiguré. Il paraît qu'il est parmi nous aujourd'hui. Et à certains moments, il est donné à quelques-uns de le pressentir, ou quelquefois même de le voir purement et simplement, dans certains cas, comme ça, Séraphin, et de bien d'autres cas, évidemment. Mais ce n'est pas uniquement pour le bénéfice, pour la joie des bénéficiaires, c'est pour que ce soit un témoignage pour l'Église tout entière. Donc que personne ne soit frustré, c'est vraiment l'expérience de tous. Et le sacrifice, l'absence physique de ceux qui étaient retenus par des motifs raisonnables, comme on dit dans la liturgie, ceux-là ne sont pas lésés, mais pour eux aussi, ce qu'ils ont vécu dans leur absence-présence, est aussi une manifestation de la grâce de Dieu qui se donne à eux selon ce dont ils ont besoin et ce dont l'ensemble de l'Église a aussi besoin. Mais non seulement ceux qui sont absents pour des motifs raisonnables n'ont pas ressenti de la même manière que ceux qui étaient présents ce frémissement intérieur devant la préfiguration, si je puis dire, de l'expérience de la transfiguration. Mais il y a aussi d'autres cas dans la vie, tout simplement dans la vie du monde, dans la vie des hommes, où cela ne se ressent pas du tout, du tout, du tout. Et où on a l'impression de ressentir tout à fait le contraire. Hier, j'ai eu une autre expérience. Pour moi, c'est la même. Mais c'est pour moi. Les gens dont je vous parlais n'ont pas la même perception. Et on les comprend. J'étais dans une famille où il y a un drame qui est en train de se jouer. Un drame de mort. aussi. Une personne qui est atteinte d'une maladie qui disparaît, qui va disparaître, qui laisse une catastrophe. Une catastrophe humaine, évidemment, j'entends. Et des catastrophes humaines, vous en connaissez tous, et vous en éprouvez tous. Il n'y a pas besoin de les détailler. Et ce que je vais dire tout de suite est c'est pour toutes les situations toutes situations ressenties négativement. Quand on a, dans certains cas, quand il y a des histoires mauvaises qui nous arrivent, des catastrophes humaines, la tentation est forte d'accuser Dieu. Et comment Dieu peut-il permettre des choses pareilles? Comment Dieu peut-il permettre qu'un train ou qu'un avion s'écrase et qu'il y ait 300 morts? Comment Dieu peut permettre qu'une famille soit décimée? Comment Dieu permet que des centaines ou des milliers de personnes soient chassées injustement de leur demeure, soient spoliées, soient chassées. Toujours, quand il nous arrive, c'est un réflexe humain. Quand il nous arrive quelque chose, on cherche toujours un responsable. Quand je donne un coup de marteau sur mes doigts pour avoir loupé le clou, j'envoie le marteau à la figure de Sœur Sylvanie en disant « Mauvais votre marteau !» Comme si c'était elle, comme si c'était le marteau qui avait tort, et comme si c'était Sœur Sylvanie qui avait tort. Vous avez vu tous les bleus qu'elle a ?
Oui, encore, j'en cache.
Et encore, vous cachez, hein. Quand une moniale a un problème, c'est tout de suite le père spirituel qui a tort. Quand quelqu'un est malade, forcément c'est Dieu qui a tort. Si Dieu était bon, il ne permettrait pas des choses comme ça. C'est un petit peu comme si un adolescent demande à son père de lui acheter pour Noël un pétarou, qu'il aille faire une course avec, se flanque en l'air, se blesse, et après, en guirlant de son père, en disant « C'est de ta faute, papa, t'avais qu'à pas me donner un pétarou. » Un pétarou, c'est un...
Mobilette.
C'est une mobilette, une meule. Une mops. Une motocyclette.
C'est vieux, ça.
Est-ce que c'est le père qui est responsable? Il a voulu sa motocyclette. Il l'a, il se plante. Qui est responsable? Alors, on fait la même chose avec Dieu. Pourquoi accuser Dieu? Le pauvre, si je puis dire, est-ce qu'il est responsable de ça? Si une motocyclette n'a que deux roues et qu'elle ne garde pas l'équilibre par elle-même, c'est pas de la faute du constructeur. C'est de la faute de celui qui perd l'équilibre et qui ne sait pas monter à califourchon sur un vélo. Ou qui s'est pris une poule, à plume évidemment, qui traversait la route et puis qui se l'est pris dans la roue avant. Je parle d'expérience. Mais ça fait longtemps. Bref, vous voyez, pourquoi accuser Dieu? Bien sûr, parce que on veut faire de notre, dans ces cas-là, on veut faire de notre foi, de notre religion, disons. On veut faire, on en fait de la superstition, comme si Dieu était un talisman, une amulette pour nous protéger des choses mauvaises. Mais les choses mauvaises, on les crée nous-mêmes. Si j'attrape un cancer des poumons et que ça vous prive d'une paternité spirituelle et d'un prêtre auprès de vous, c'est pas forcément de la faute du Père éternel. C'est quand même parce que j'ai trop fumé et que c'est moi et j'en suis le responsable parce que je me suis flanqué la maladie au poumon. Soit parce que l'atmosphère est tellement polluée qu'effectivement, J'attrape des microbes, des virus, ou je ne sais quelle cochonnerie, qui provoquent effectivement le cancer. Mais ça, c'est les hommes qui en sont responsables. C'est pas le Père éternel. Alors, je dis ça déjà pour disculper Dieu. C'est quand même pas Dieu qui est responsable des maux que nous avons. En plus, nous savons, saint Paul nous le dit en long, en large, le Christ aussi d'ailleurs, et je crois qu'on peut le croire, de bonne foi, que nous avons à lutter contre des puissances infernales, c'est-à-dire des puissances de l'enfer, qui veulent détruire la création divine. Il y a des démons qui existent réellement. Le diable et ses suppôts, le diable et ses mauvais anges cherchent à détruire la création de Dieu et cherchent à nous faire mal. Et ils nous font mal de 36 manières. En nous faisant pécher, en nous faisant douter et en créant des maux, des malheurs, des accidents, des maladies, des morts, des troubles, des oppositions, des haines, des guerres, de manière à mettre en nous, à insuffler des doutes en nous. Justement, ils sont malins, c'est d'ailleurs le nom qu'ils portent. Ils insufflent des doutes en nous, de manière à ce que Dieu, peut-être pas si bon que ça. Hein. T'as vu ce qu'il fait? Vous voyez, pour détruire l'œuvre de Dieu, il calomnie Dieu. Pas, évidemment, pas en se présentant à nous avec une calomnie directe, parce qu'à ce moment-là, on aurait peut-être des chances de résister, mais en insufflant ces doutes à l'intérieur de nous-mêmes, de manière à ce que peu à peu, ça s'accroisse et qu'on arrive à remettre en cause l'être même de Dieu, c'est-à-dire sa bonté et son amour. Mais il faut dire aussi qu'une partie de la responsabilité de ces doutes nous incombe. C'est en partie nous qui sommes les fautifs des doutes que nous avons sur Dieu. D'une part, est-ce que nous luttons réellement contre ces forces démoniaques? Est-ce que nous luttons réellement contre le mal? On lutte contre les phénomènes. On a des médecins parmi nous. Ils luttent contre les phénomènes du mal. Ils essaient de soigner nos corps. Et quand ils ont un peu de d'âme, ce qui est quand même souvent de la part dans ce métier-là, ils essaient aussi de se pencher sur l'âme de leurs patients aussi. C'est pas simplement technique. Cependant, on sait aussi que leur œuvre, hélas, est vouée à périr d'une certaine manière, puisque tous ceux qu'ils soignent, tôt ou tard, finiront par mourir tout de même. Cependant, l'amour qu'ils ont montré en soignant leurs patients, cet amour-là, lui, demeure. Si c'est un amour au nom de Dieu, et il est toujours au nom de Dieu, consciemment ou inconsciemment, ça demeure. Mais il y a une autre lutte contre les forces du mal. Est-ce qu'on a conscience qu'il faut s'y opposer et de prendre les mesures qui s'imposent pour essayer de limiter ce mal? Par exemple, il y a de la haine autour de nous, et bien de pardonner même à ceux qui nous haïssent, de manière à s'opposer à ça, et s'opposer aux démons qui amènent. Il est certain que si dans le monde on luttait plus avec des moyens, les moyens adaptés, c'est-à-dire les moyens spirituels, si on développait plus le sens de notre âme, la nôtre et celle des autres, il y aurait beaucoup moins de mal dans le monde qu'il y en a. Dieu n'est pas une amulette, Dieu n'est pas un talisman pour nous protéger du mal. Cependant, quand on se réfugie en Dieu, ou derrière Dieu, ou avec Dieu, Dieu est effectivement notre rempart, notre force, notre bouclier. Et Dieu nous aide, il nous protège aussi. Vous êtes tous témoins, à un moment ou à un autre, on vous a raconté pendant l'été comment ce qui était arrivé en voiture, Comment à certains moments, Dieu intervient et peut effectivement nous sauver d'accidents, de cataclysmes, de maladies. Et si, si notre vie était constamment en Dieu, nous serions protégés de beaucoup de choses. Le Seigneur nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Si on cherche le royaume des cieux, quelle que soit notre faiblesse, quels que soient nos péchés en même temps, mais si notre énergie se tourne pour chercher Dieu, Dieu nous donne le reste. Il nous procure ce dont on a besoin. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de toute maladie, ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de toute catastrophe, mais on sent à ce moment-là comment ces maladies ou ces catastrophes humaines servent aussi à notre salut pour la gloire de Dieu, mais à notre salut. Pas simplement comme un martyr qu'il nous faille subir, mais comme véritablement l'accession à un autre mode de vie. Souvent, pourquoi souffre-t-on de toutes ces choses-là? Nous en souffrons parce que nous sommes athées. Nous vivons pratiquement comme si Dieu n'existait pas. C'est-à-dire, on vit comme si la vie sur Terre, le soi-disant bonheur humain, la prospérité, était définitif et comme s'il n'y avait que cela. Mais il n'y a pas que cela. Cette vie humaine nous est donnée, nous le savons, provisoirement. C'est un talent qui nous est donné pour que nous ayons la possibilité d'agir librement sur notre vie pour l'orienter comme nous voulons qu'elle soit orientée vers Dieu. C'est-à-dire pour participer à notre auto-création, si vous voulez, pour orienter notre liberté de la manière où nous le voulons, puisque si c'est notre liberté, c'est ce que nous voulons. Et cela, de manière à forger notre être et à arriver dans une autre forme de vie qu'on appelle le royaume des cieux, qu'on appelle la vie éternelle, pardon, la vie au-delà, la vie après la mort, en sachant que notre vie sur Terre, qu'elle soit de quelques heures au moment de la conception, ou de qu'elle soit d'une longévité de record jusqu'à 120 ans, hein, oui, je sais, 70 ans pour les plus vigoureux, etc., bien sûr, mais ça, quelle que soit la longueur de la vie, c'est le courte ou longue, c'est le temps qui est nécessaire à notre liberté pour pouvoir éclore à une autre vie, pour pouvoir se forger à une autre vie. Mais notre vie sur Terre n'est pas définitive. Alors, on est malheureux parce qu'on perd sa fortune. Je sais que ça va avoir un peu de fortune ou un petit peu d'argent, c'est une nécessité pour survivre. Et pour avoir une éducation, pour rendre heureux. Mais en soi, ce n'est pas complètement indispensable. On peut vivre aussi très pauvre. Et l'expérience montre que des personnes qui vivent dans une grande pauvreté, quelquefois une pauvreté extrême, peuvent être parfaitement heureux. La prospérité humaine, ce n'est pas ça qui amène le bonheur. On parle beaucoup de, vous savez, vivre ou mourir dans la dignité, avec tous les problèmes d'euthanasie, de ce que vous voudrez. Où est l'indignité? L'indignité, quand on est vieux, c'est pas d'être obligé d'avoir des couches et d'être soigné et essuyé par des proches. Et ce qui, physiquement, n'est pas, et psychologiquement, n'est pas très agréable, certes, mais quand c'est fait avec amour. Est-ce que c'est dégradant? Je te sers par amour et tu te laisses servir par amour. Ça, c'est de la dignité. L'indignité, c'est de laisser crever les personnes sans s'en occuper, de les abandonner et de les laisser seuls. C'est là où est l'indignité. Sinon, il n'y a pas d'indignité dans le... Pour dire que la qualité de la vie, elle est autrement, elle est de la manière dont on la voit. Donc, pour tout ça, n'attaquons pas Dieu, si vous voulez. Alors, j'ai dit, est-ce qu'on fait ce qui est à notre pouvoir pour nous opposer aux forces du mal? Point d'interrogation. Je ne réponds pas à votre place. Mais parallèlement, est-ce qu'on met aussi un peu d'énergie à essayer de comprendre ce qu'est l'amour de Dieu? Je ne vais pas vous faire une homélie pour vous expliquer que quand on souffre, c'est parce que Dieu nous aime. Ça, c'est un faux argument. Les malheurs qui nous arrivent ne sont pas forcément des dons de Dieu pour nous éprouver, pour voir si on croit vraiment en lui, si on s'accroche, etc. Sinon, effectivement, il est quelquefois un petit peu sévère. Il serait un petit peu sévère. Mais est-ce qu'on cherche à savoir comment se manifeste l'amour de Dieu? Vous vous rendez compte que devant les drames humains que vous connaissez, ou dont vous avez entendu parler, ou que vous éprouvez vous-même, Dieu lui-même, dans toute sa hauteur et toute sa majesté, n'est pas resté insensible. Et il a supporté lui-même, jusque dans sa chair et dans son âme, les mêmes souffrances que nous, lui qui est Dieu, de manière à nous communiquer sa force et la gloire qui est la sienne. Est-ce qu'il peut aller plus bas? Une infirmière qui vient vous soigner ou vous essuyer le derrière quand vous vous êtes sali, elle fait ça de l'extérieur. Dieu, lui, ne le fait pas de l'extérieur, c'est à l'intérieur. Il prend notre condition et il vit la même chose que nous. Alors, il est responsable de quoi? Il est responsable de notre malheur ou au contraire de notre glorification? Mais pour ça, pour faire cette expérience-là, il faut évidemment se tourner vers Dieu et avoir un a priori favorable pour lui, le pauvre. J'ai dit pauvre bonhomme, excusez-moi, je ne veux pas blasphémer, mais je voudrais qu'on ait un peu de pitié pour lui. C'est-à-dire de se rendre compte à quel point il fait tout ce qui est en notre possibilité pour nous séduire, pour notre possibilité, c'est-à-dire sa possibilité, ses possibilités sont limitées par notre liberté à nous. On peut le refuser, mais au moins qu'on s'ouvre à sa vie, qu'on s'ouvre à sa manière, à son être. Or, il est bonté, ayons un a priori favorable et cherchons à voir comment cette bonté se manifeste. J'ai commencé par évoquer la mort de Sérignas et ses funérailles. Si vous avez pu ressentir ce que vous avez ressenti, ceux qui étaient présents, c'est parce que a priori vous savez que Dieu est bon et que la mort de Sérignas n'est pas qu'une catastrophe. Bien sûr qu'elle nous manque. Bien sûr que on aimerait l'avoir encore physiquement avec nous, mais tous on va disparaître comme ça. Ça, c'est pas une catastrophe. L'amour qu'il y a entre elle et pour nous continue. Il ne s'adresse plus à son corps, mais il s'adresse à sa personne. Et dire maintenant, nous apprenons même à l'aimer d'une manière non physique et non affective, mais d'un amour plus grand encore. Et en même temps que nous l'aimons, nous continuons à l'aimer. Nous apprenons à aimer aussi les autres qui sont décédés, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, enfin toutes les générations qui nous ont précédés, tous ceux dont on a entendu parler, qu'on a côtoyé plus ou moins et qui ne sont plus avec nous. Mais tout cela, on les aime d'une autre forme d'amour et d'un amour qui en dernier lieu ou en premier lieu s'adresse véritablement au Christ. Et c'est l'amour de l'Esprit-Saint que nous sentons à ce moment-là, c'est-à-dire la vie de l'Esprit-Saint qui se manifeste en nous et qui se répercute en nous. C'est comme ça que nous pouvons connaître quelque chose de l'être de Dieu. Et cela, bien sûr, se développe par notre effort de conversion, par notre acte de foi préalable, par notre prière aussi, qui nous permet d'assimiler ce que nous découvrons, ce que nous vivons comme ça, et de le comprendre. Passe par notre ascèse, qui nous permet d'éliminer, de tenter à éliminer les tentations de vouloir palper, de pouvoir voir, d'avoir une logique humaine qui nous empêche de comprendre que mon frère est malade, mais au-delà de sa maladie, je vois que mon frère est en train de mûrir et que son amour pour moi et l'amour que j'ai pour lui sont en train de croître, parce que petit à petit, c'est l'amour du Christ qui se manifeste entre nous deux. C'est indispensable aussi d'avoir, de participer au sacrement. Ce n'est pas une leçon que je vous fais, vous y participez, vous précisément. Mais c'est pour dire que tous ces éléments-là sont indispensables. Parce que par la réception des sacrements, nous recevons véritablement la vie même du Christ. Pas une vie semblable à la sienne, mais sa vie que nous partageons. Et par la prière, nous assimilons nous comprenons petit à petit cela par la force de l'Esprit Saint qui nous englobe dans la prière. Tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent non seulement de continuer à croire malgré les catastrophes, mais surtout de comprendre, même si le monde ne le comprend pas, de comprendre comment Dieu est à l'œuvre et que malgré ce que les premiers éléments que nous voyons avec notre logique humaine déchue, comment la vie de Dieu, comment quelque chose est en train de germer. Quand vous voyez un haricot on a tous fait cette expérience-là quand on était à l'école, vous mettez un haricot dans du coton avec un petit peu d'eau, vous voyez le coton, le haricot, il commence à se déformer, qui craque, qui s'ouvre, et puis il y a une plante qui se met à pousser là-dedans. Il faut d'abord que le haricot meure, si vous voulez, qu'il pourrisse en quelque sorte, et à partir de là naît quelque chose. Et bien notre vie sur Terre, c'est une sorte de pourrissement, si je puis dire. On ne voit, je ne dis pas que ce soit réellement un pourrissement, hein, mais on ne constate, on voit. Une espèce de déchéance progressive. Regardez-nous tous. On est encore relativement... On se tient encore relativement, mais inéluctablement, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus anciens, je crois bien que c'est moi, on s'achemine forcément vers la mort. Tu parles d'une gloire. Mais au-delà de ça, est-ce que vous ne voyez pas que le haricot est en train de pousser, est en train de donner vie à une plante tout entière qui va grandir? On a mis Sœur Ignace en terre. Bien sûr, c'est pour qu'elle se délite, qu'elle retourne à la terre. Mais ce n'est pas une fin. Il y a autre chose qui va naître d'elle. Je ne parle pas de toute la faune qui va en être issue. Mais je parle de son âme et de son être profond qui entre dans un processus d'unification déjà commencé depuis 80 ans, depuis son baptême, et qui continue, qui est en train de s'achever et qui va aller d'accroissement en accroissement pour toute l'éternité. C'est-à-dire toute l'éternité, elle va s'accroître dans l'immensité de la majesté de Dieu, avec tous les autres et avec nous autres aussi. Est-ce que vraiment c'est une déchéance? Et quand on voit les petits-enfants qui sont tués à la guerre, et bien sûr que c'est lamentable et que c'est triste et que ça fait des malheurs autour d'eux, mais en soi, plus profondément que ça, est-ce que c'est le Seigneur qui en est responsable? Doit-on accuser le Seigneur de le laisser faire des guerres? Les guerres, ce n'est pas le Seigneur qui les fait, c'est nous qui les faisons. Et quand j'ai mauvais caractère et que je me fâche contre l'un de vous, je participe à ces guerres, même si je ne suis pas encore à vous tuer à coup de couteau. Mais même si ces morts sont scandaleuses et douloureuses, apprenons à ne pas accuser Dieu. Ce n'est pas lui qui crée ça. Ce n'est pas parce que ça existe qu'il manque de bonté. C'est nous qui manquons de bonté. Mais lui respecte seulement notre liberté. mais par bonté, lui, il s'incarne, il prend notre place, il vit la même chose que nous, de manière à nous permettre de vivre la même chose que nous. Tout le monde ne le sait pas, mais tout le monde bénéficie de cet amour de cet amour de Dieu. Le bénéfice des chrétiens, pas le bénéfice, la joie des chrétiens, le supplément qu'ont les chrétiens, c'est de le savoir et de pouvoir se réjouir, de pouvoir exulter malgré les difficultés, de dire « Ah, je vois l'amour de Dieu derrière ». Et par conséquence, d'exprimer cet amour aux autres aussi, puisque nous voyons l'amour de Dieu, nous exprimons le même amour par notre compassion auprès de ceux qui souffrent et qui ne voient pas cela, de manière à être les témoins auprès de Dieu de l'amour de Dieu. Pas forcément en leur expliquant, ça les scandaliserait si on leur disait, mais en simplement en étant là et en étant compatissant, c'est-à-dire en supportant leur passion que l'on adopte, et on est des compassionnistes avec eux. Ils sont sur la passion, ils sont crucifiés, et nous nous laissons crucifier avec eux, nous souffrons avec eux, nous partageons leur souffrance d'une autre manière. Les petits-enfants qui sont tués à la guerre, c'est pas moi qui suis tué, c'est pas moi leur père, j'ai pas la même souffrance que leur papa ou leur maman. Et cependant, en totalité, je peux vivre aussi cette passion avec eux. Mon amour pour eux peut être si grand qu'effectivement leur souffrance est ma souffrance, mais d'une autre manière. Et c'est cette souffrance-là, cette compassion-là, qui fait que on prend sur nous la souffrance des autres, comme Dieu, à travers la deuxième personne divine, le Christ, a pris la souffrance des hommes. On est crucifiés, nous aussi, écartelés entre la souffrance et l'incompréhension des personnes scandalisées, et par la confiance que l'on a vis-à-vis de notre Dieu, que l'on sait bon, mais que l'on ne voit pas non plus toujours, parce qu'il y a un acte de foi, on est écartelé entre les deux, on est véritablement crucifié, mais c'est cette crucifixion-là, qui fait que, cet écartèlement-là, qui fait que nous sommes un à ce moment-là avec le Christ, et le Christ apparaît visiblement, concrètement, parmi les hommes, et nous sommes d'autres êtres à être les membres du corps du Christ et à montrer aux yeux du monde que le Christ existe. Ça n'enlève pas leur douleur physique ou psychologique ou affective. Mais c'est pas parce que le monde en doute que nous devons en douter nous aussi. Nous devons, quand je dis nous devons, c'est que ce n'est pas un devoir, mais c'est une loi inscrite dans le fond de notre cœur. Nous devons être inébranlables. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu nous sauve. Oui, Dieu veut le salut de tous les hommes sans exception. Il y a des forces du mal, on lutte contre. Mais ce n'est pas Dieu qui en est responsable. Et nous restons inébranlables. Et même si le monde cherche à nous convaincre, avec sa logique à lui, que Dieu n'est pas bon, que Dieu ne peut pas exister, que Dieu nous fait souffrir, que Dieu est injuste, non ? Nous n'avons pas forcément les arguments philosophiques pour répondre. Donc nous nous taisons, mais nous nous taisons comme le Christ s'est tu sur la croix, comme il ne disait rien, mais il portait la souffrance des uns et des autres. Et nous aussi, nous portons la souffrance des uns et des autres par notre propre souffrance, mais en même temps, nous savons que ainsi juchés sur la croix, nous sommes les témoins de la résurrection et illuminés intérieurement par la vie même de Dieu qui répand de cette manière-là son amour pour nous, pour tout le monde. Donc surtout devant tous les drames, ne soyons pas ébranlés, n'ayons pas un doute sur Dieu. ne nous laissons pas ébranler non plus par les arguments du monde ou des gens du monde qui veulent, qui scandalisaient, et on peut comprendre leur scandale, qui scandalisaient, voudraient, même involontairement, mais enfin, tendraient de mettre un doute dans notre cœur. Non, nous n'avons pas de doute. Nous ne savons pas répondre, mais nous n'avons pas de doute. Nous sommes un avec le Christ. Nous croyons d'abord, et après, il nous amènera, quand il le faudra, les mots, les gestes, les sentiments, l'attitude qui sera nécessaire pour que cet amour qui est le sien puisse se faire comprendre et connaître aussi aux autres.